RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 11e étape du Tour de France au programme des coureurs aujourd'hui entre Carcassonne et Montpellier. 162 km à parcourir. Il en reste encore 102. On en a fait donc 60. Vous avez vu comme je suis fort en maths. Voilà, 102 km encore à parcourir. On va faire un point sur cette course alors que le peloton met pied à terre à l'instant, Fred. Une petite chute a priori ou alors un arrêt pipi. Non, je sais pas. Oui, c'est plutôt un arrêt pipi là.
Non, c'est Adrien Petit, le coéquipier de Brian Cocard chez Direct Energy qui a un souci mécanique apparemment. Un problème avec sa roue arrière, effectivement un début d'étape assez agité à cause du vent. Effectivement, pause pipi pour certains coureurs et Adrien Petit a été heurté par l'arrière semble-t-il. Adrien Petit qui va repartir sans aucun problème. Deux coureurs à l'avant de la course, Adrien Vichot, Arthur Vichot, le champion de France, accompagné de l'Australien Lee Howard de l'équipe Yam Cycling à 102 km de l'arrivée. Dernier pointage, 4 minutes 10 pour ces deux-là qui avancent tranquillement sur les routes de l'Hérault. On n'est pas encore sorti des reliefs un brin escarpé du sud des Cévennes. L'écart est stabilisé et la priorité aujourd'hui, c'est d'éviter un coup de vent. On aperçoit les Sky, les Tinkoff, les Katyusha également à l'avant d'un peloton qui occupe toute la largeur de la route. Le duo tête qui vraiment emmène cette échappée de manière assez décontractée et assez sereine et probablement sans grand espoir de succès ici à Montpellier.
Et oui, parce qu'autant hier avec les cadors qu'il y avait dans l'échappée de tête et puis le début de l'étape qui avait été marqué par l'ascension du port d'Envalira, il y avait quand même de fortes chances que ça aille au bout. Autant aujourd'hui, Cyril, ça va quand même être compliqué pour les deux hommes de tête, hein, 4 minutes 13 à 100 km, même si ça continue de monter petit à petit, mais enfin c'est l'écart n'est pas assez suffisant.
Oui, bah c'est pas très compliqué en fait. Il faut rouler à leur rythme en sachant qu'ils vont se faire manger peut-être à 10 km, peut-être à 20 km de l'arrivée, peut-être à 30 km. Donc pour eux, ils sont partis faire un petit tour. Ils sont partis prendre l'air. Vous savez, il y a un peu de vent aujourd'hui là. Et je pense pas qu'ils souhaitaient partir à deux d'ailleurs, parce que dans ce genre d'étape, c'était mieux de se retrouver à 6 ou 7, surtout avec le vent. Mais je pense que le peloton n'aurait pas laissé partir aujourd'hui 6 ou 7 coureurs, voire plus. Comme ça a été le cas hier, mais l'étape était totalement différente. Donc ils savent qu'ils sont condamnés à être rejoints avant la ligne d'arrivée.
Vous n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions pour le titre de l'épisode du jour sur le hashtag RMC Live. Je vous donne encore quelques minutes. J'ai pas beaucoup de propositions. Ça roupille aujourd'hui. Hein. C'est une journée sieste. Hein. On sent que les vacances sont arrivées. Tout le monde est au bord de la plage et on n'a pas son petit Twitter. Hein. Le roi des Twitter, c'est quand même GG. Hein. Là, il est très fort.
GG roule 44.
GG roule 44.
Voilà. Il l'a placé.
Le but aujourd'hui, c'était de dépasser les combien 30 000 followers.
C'est l'objectif du Tour de France, Cyril. Christophe, excuse-moi.
Du Tour de France, pas de l'étape.
Ah non, du Tour de France, je suis pas si ambitieux que ça sur une étape, c'est difficile, hein, tu sais.
T'es à combien là?
On n'est pas loin.
S'il arrive à 30 000, il envoie une bouteille de champagne à chacun de ses followers.
Ça va te t'emballes un peu là.
Ça va te coûter la peau des fesses.
Georges, ce serait bien qu'il commence par nous. Hein.
Oui. Ben oui, nous on le suit évidemment. Et il envoie des petites photos. Aujourd'hui, là, il a sorti la canne à selfie dans la
musette. J'ai quelques petites photos sur ma page Twitter.
Oh là là.
Je vous en dirai plus tout à l'heure.
Attention. Georges Quirino, lui, est à l'avant de la moto, à l'avant de la course, plutôt sur la moto. Il n'a pas le temps de faire des photos. Si, de temps en temps, quand même. Hier, dans la descente du port d'Envalira, il s'est fait un petit plaisir, d'ailleurs, Georges. C'était un peu inquiet. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes températures, ni le même climat.
Oui, 25 degrés 5, là, nous dit le thermomètre aujourd'hui pour la route du Tour de France. On est derrière l'échappée, derrière Arthur Vichot et Lee Howard, le coureur de la formation Yam Cycling. Ils viennent de voir l'ardoisière qui s'est arrêtée sur la gauche pour leur montrer le dernier écart. 4 minutes 15, ça discute beaucoup entre les deux garçons qui ont passé il y a quelques instants la deuxième et dernière difficulté de la journée, la côte de Villepassant que Arthur Vichot a franchi en tête comme la première tout à l'heure. Il n'y a pas eu de bataille entre ces deux-là qui ont mis beaucoup d'enjeux, hein, visiblement, aujourd'hui sur cette étape. Le vent s'est un peu calmé. Là, on est à l'abri depuis quelques kilomètres. En revanche, ça se couvre un petit peu au-dessus. On avait du soleil depuis le départ de cette étape de Carcassonne. C'est un ciel un peu plus gris désormais au-dessus des coureurs du Tour de France et de la tête de course où il n'y a toujours pas de voiture FDJ. qui est derrière Arthur Vichot, qui est bien tout seul derrière. On rappelle que la voiture est bloquée derrière le peloton, qu'on est resté certainement pour aider Thibaut Pinot qui a chuté tout à l'heure. Voilà en tous les cas les deux hommes de tête qui sont bien seuls pour l'instant dans cette échappée du jour.
Merci monsieur Georges. 98 km 400 de l'arrivée. Voilà notre petite Falbala qui nous revient.
Tiens.
Voilà la jolie Marion.
Elle s'est fait attendre hein,
ah oui, mais c'est ça les stars, c'est ça les stars. Qu'est-ce que vous voulez?
Bonjour les garçons, bonjour à tous.
Ça va Marion?
Mais très très bien.
Ça se passe
moi,
bien, Tour de France.
Ça va, après la première journée de repos, je suis en pleine forme.
Ah oui, t'es en pleine forme après la première journée de repos.
Mais
on
oui.
nous a dit que certains étaient fatigués quand même après la première journée de repos.
Ah, certains beaucoup même, je veux dire, mais je citerai pas les noms.
Bon, Marion, toujours sur Eurosport évidemment, et puis pour Vittel également sur le Tour de France.
Alors c'est pour la troisième année consécutive, je suis l'ambassadrice du prix Antargaz de la combative journée.
Antargaz,
attention.
Bah oui, mais ils sont tous en rouge.
C'est la même couleur. Ouais. Et puis évidemment aussi consultante pour Eurosport et puis l'émission Les Rois de la Pédale où vous pouvez nous retrouver avant et après l'étape.
Et donc tu fais partie du jury du prix Antargaz du prix de la combativité où on te demande ton avis?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est vrai
même,
que...
Ça. Ouais, c'est assez machiste hein, quand même ce milieu-là.
Scandaleux, oui et non, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un bon jury composé notamment de Thierry Gouvenou qui est directeur de la course, mais également Laurent Gélabert qui savent de quoi il parle. Mais c'est vrai que, par exemple, lorsqu'il y avait eu l'épisode où on avait remis le trophée, le prix Antargaz de la combativité à Thomas Vauclair et non à Armindo Fonseca,
ah oui,
on venait un peu me voir, mais moi je n'avais rien à voir là-dedans.
tu n'interviens pas dans cette décision qui est rendue à quelques kilomètres de l'arrivée.
Alors, oui, et Marion, quelle était ta position par rapport à cela?
Honnêtement, je pense que je l'aurais décerné à Armindo. Après, je comprends aussi qu'on le donne à Thomas Vauclair, parce que c'est vrai que c'est lui qui a un peu redynamité la course. Mais après, Armindo Fonseca, honnêtement, il avait fait plus de 150 km en tête, seul. Et puis surtout, il était devant sa famille, chez lui. Et puis pour cette formation Fortuneo Vital Concept, on le sait, c'est un prix qui a vraiment de l'importance. Donc voilà, peut-être un petit bémol, mais honnêtement, avec hier, par exemple, Peter Sagan, il n'y avait pas photo.
Exactement. Marion, à l'avant de la course, il y a un maillot bleu, blanc, rouge de champion de France.
Je sens la question.
Il y a quelques jours se déroulaient justement les championnats de France. Arthur était échappé en compagnie de ton cher et tendre, ton mari, Tony Galopin, qui n'est pas passé loin. J'écoutais le commentaire d'ailleurs sur Eurosport.
Et on n'a rien entendu.
Non, pas du tout, mais t'étais un peu tendu quand même. Hein. C'est vrai que ça doit être difficile à vivre, à commenter ce genre de choses lorsque
ouais,
on
vrai est
partie prenante.
C'est pas évident. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir commenter les championnats de France et lorsque, voilà, dans le final, vous savez que la victoire peut-être se jouer avec Tony Galopin qui est mon mari. Forcément, il y a un petit peu plus d'adrénaline, mais bon, je reste professionnelle.
Tu as tapé sur la table de
non,
de,
même
non,
pas,
tu
non,
restais,
même
tu
pas.
Calme.
Non. Après, voilà, Arthur Vichot, il le mérite amplement. C'est son deuxième maillot de champion de France. Et regardez, aujourd'hui, il le fait honneur à ses belles couleurs. Donc, il le mérite. Hein. C'est vrai que Tony, ça fait la deuxième fois qu'il termine deuxième derrière Arthur Vichot. Donc, forcément, la déception était grande. Et voilà, il faut se remobiliser. Et puis, il y en aura d'autres des championnats de France.
Et puis, c'est vrai que c'est compliqué pour un coureur qui court dans une équipe étrangère, qui n'a donc pas d'équipier sur cette course un peu particulière que sont les championnats de France. C'est difficile de lutter contre l'armada FDJ ou l'armada G2R.
Exactement. Lorsque vous savez que la FDJ prend le départ à 28 et que vous êtes seul avec la Lotto Soudal, honnêtement, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai que Tony, déjà faire deuxième, mais il a couru à la perfection. Il avait les bonnes jambes. Donc déjà, c'est pas mal. Mais honnêtement, qui s'en souvient du podium des championnats de France il y a 3 ans? Voilà, il y a seul le maillot compte. Et c'est vrai que la deuxième place, c'est peut-être la pire.
Tony Galopin qui était dans l'échappée royale d'hier en direction de
Revel.
Où est-ce qu'on est arrivé?
Revel
hier, effectivement, un peu piégé dans le final.
Oui,
ce n'est pas le Tony d'il y a 2 ans, ce n'est pas le Tony d'il y a 1 an. Qu'est-ce qui cloche chez Tony Galopin cette année sur le Tour?
Bah déjà l'année dernière, il était là pour le classement général, donc les échappées, il n'y allait pas souvent, il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis est venu une chute, un mal de genou, donc il a terminé le Tour l'année dernière un peu fatigué, un peu cramé. Cette année, il s'est dit, je vais pas refaire la même erreur, je viens ici pour les victoires d'étape. Donc c'est pour ça aussi les premiers jours qu'on l'a vu se relever. Et puis hier, c'est vrai que c'était une échappée idéale pour lui, un manque de réussite aussi, de clairvoyance, je dirais, parce que tout simplement il s'est fait avoir comme pas mal de coureurs, comme Rui Costa, comme Nibali. Je pense tout simplement qu'ils se sont un peu regardés, peut-être qu'ils se connaissaient le final. final avec la dernière bosse à 6 km de l'arrivée. On s'est un peu regardé en disant voilà, on est les meilleurs grimpeurs de ce groupe. Et puis est venue la bordure de Peter Sagan qui nous a fait un énorme numéro hier. Donc il n'y a rien à dire, mais je peux vous dire quand même qu'hier à l'arrivée, c'était un peu la soupe à la grimace hein, pour Tony.
Bon, en tous les cas, Marion, il y avait des beaux gosses dans l'échappée hier. Hein. C'est vrai que.
Ah, je n'en voyais qu'un.
Oui, tu n'en vois qu'un, mais bon, il y en a. C'est vrai que Matthews, Sagan, ouais. Galopin, c'est quand même c'est les playboys du peloton. Bon, avant, on avait Jérôme Pinot, maintenant il est dans le camion avec nous. Mais...
moins de cheveux quand même. Hein, moins de cheveux.
Oui, mais c'est vrai plus qu'il... de dégâts. Hein. Il a fait beaucoup de dégâts dans le peloton et autour. Hein,
et c'est vrai qu'ils font du bien au vélo, ces garçons-là. Beaux gosses, sympas, fun. C'est une image assez moderne. Hein,
vrai que la nouvelle génération nous fait plaisir, hein, même du côté des Français. On a des Brian Cocard complètement décomplexés, des Julien Alaphilippe qui me font un peu penser à un Peter Sagan, un peu déjanté, un peu fun. Donc c'est clair que ça fait du bien. Et hier, pour revenir un peu à l'échappée, lorsque vous voyez les 15 noms, c'était vraiment une échappée royale qui s'est formée dans la première ascension, dans un long col. Donc honnêtement, c'était les plus costauds à l'avant et nous avons eu une belle étape, en tout cas du côté pour se jouer la victoire d'étape. Parce que pour l'instant, du côté des favoris, bien, c'est un peu statu quo.
Alors, chez les hommes, on a des beaux produits d'appel, hein, des beaux personnages.
C'est comme ça que t'appelles ça, toi, des produits d'appel.
Des beaux personnages, évidemment.
Donc, Tony, pour Marion, est un beau produit d'appel.
Évidemment.
Donc, tu es marié avec un beau produit d'appel,
avec
Marion. Voilà.
Il est plus sur le marché. Hein.
Ah, ouais, t'as vu ça?
Oh, mince. Avec Michael Mann.
La verrouillée.
Pas besoin de faire la pub du cyclisme masculin parce qu'il a de fort beaux ambassadeurs. Quid du cyclisme féminin? Tu as 24 ans, Marion, tu vas bientôt fêter tes 25 ans. Tu as été, on le rappelle, championne de France à 21 ans seulement. Tu as dû mettre un terme à ta carrière pour des raisons qui te sont propres. Tu as décidé de donner une autre direction à ta carrière. Quand tu vois comment évolue le cyclisme féminin, quand tu vois qu'Edwige Pitel, 49 ans, a été récemment sacrée championne de France.
Un beau produit d'appel aussi.
As-tu des regrets sur la décision que tu as prise?
Non, pas du tout. Hein, parce que le vélo, je l'ai commencé à l'âge de 6 ans en compétition. J'ai été double championne de France. Après, j'ai connu les plus belles formations au monde avec la Lotto Soudal. J'ai fait les plus belles courses, la Flèche Wallonne, le Tour des Flandres. Donc honnêtement, j'ai aussi couru pour les meilleurs leaders du monde. Donc j'ai un peu tout côtoyé dans le milieu. Et puis surtout, c'est des opportunités qui se sont offertes à moi avec Eurosport qui m'avait repéré lorsque j'étais championne de France. Et je prenais de plus en plus de poids et de place sur la chaîne. Donc de pouvoir rester dans un milieu qui me plaît. J'en ai parlé un peu avec mon entourage. Mais honnêtement, il faut savoir aussi que dans le vélo féminin, on n'est pas rémunéré. J'étais professionnelle, mais je devais continuer à travailler à côté. Et je pense que Jérôme Pinot ne me contredira pas si je le dis que le sport de haut niveau, il faut être à 100% dans son domaine, à 100% dans l'entraînement, parce que sinon ça n'a plus de sens. Et c'est vrai que ça faisait déjà 2 ans que j'essayais de faire un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai pris ma décision de vraiment me consacrer à mon nouveau métier qui me plaît amplement.
Bon, en tous les cas, les jeunes filles ont du mal quand même à s'attaquer aux mamies du cyclisme français.
Quand même pas, vous êtes sévère. Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde.
Bien sûr, mais alors, Pauline est un peu dans le creux de la vague en ce moment. C'est vrai qu'il y a les Jeux qui arrivent où elle ambitionne de devenir championne olympique. Au départ, dans deux disciplines, est-ce que tu crois que ça reste possible vu son état de forme actuel ou ça
C'est une saison compliquée, hein. C'est vrai pour Pauline Ferrand-Prévot, et c'est compliqué lorsque vous êtes une athlète comme Pauline qui avait tout gagné. C'est vrai, elle a été championne de monde, championne d'Europe, championne de France. Il ne lui manque qu'une seule médaille aux Jeux Olympiques. Et cette année, c'est une année très très importante. Elle a voulu faire le doublé, donc la course sur route, mais également la course VTT. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure préparation parce qu'elle n'est pas à 100%. Et elle le sait, Pauline. En plus, elle vient d'être victime d'une chute assez importante. Donc à un moment, elle parlait même de peut-être laisser une course de côté pour en privilégier une. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 10 jours entre la course sur route et le VTT. Donc ça va être quand même assez compliqué pour Pauline de gérer. Après, elle est super bien encadrée. Elle est retournée avec son entraîneur Gérard Brooks. Donc je pense après, ça sera une décision qu'ils prendront ensemble.
S'il y avait un choix à faire entre la route et le VTT?
Ah, je le connais, le sien. Ça sera le VTT, parce que c'est vrai que la course en ligne, bien, voilà, il y a plus de, c'est plus une course aléatoire. Même si vous êtes la plus forte, vous pouvez vous faire battre, voilà, avec les circonstances de course. Que le VTT, bien souvent, c'est la plus forte qui s'impose. Donc, je pense que du côté de Pauline Ferrand-Prévot, on se dirigerait vers le VTT.
Et puis, pour préparer la course de VTT, elle aura besoin de moins de temps que de préparer la route. Elle a perdu beaucoup de temps entre ses blessures à son dos, après ses chutes. c'est compliqué et je pense que voilà, elle doit faire un choix et celui du VTT serait le plus sage.
Il se passe des choses en tête de course là.
Oui, c'est un délice d'écouter Marion évidemment et de la regarder, mais à 92 km de l'arrivée, attention, alerte rouge à l'avant du peloton, le vent souffle très fort, près de 80 km/h, la Tramontane est de sortie et les bordures peut-être également. 6 coureurs de la formation Tinkoff à l'avant du peloton, derrière le duo de tête composé, on vous le rappelle, du champion de France Arthur Vichot et de l'Australien Liv Howard. Apparemment, Peter Sagan et ses coéquipiers de la formation Tinkoff ont décidé de sonner la charge et de mettre en difficulté quelques coureurs, en particulier les sprinteurs, car Peter Sagan vise une deuxième victoire d'étape ici. Il va falloir être vigilant dans les 91 derniers kilomètres de cette étape en direction de Montpellier.
Incroyable, Peter Sagan, pas une journée sur le tour sans qu'on parle de lui et sans qu'on le voit à l'attaque quand même.
Oui, Marion, surtout, surtout les scénarios de course possibles. On l'a vu à l'attaque dans l'école et maintenant on le voit de nouveau à l'attaque lorsque sa formation crée une bordure. Je peux vous dire que voilà, on est à 90 km de l'arrivée et ce n'est pas fini.
Oui, ça va être le grand remue-ménage dans cette étape du Tour de France pour le final. Merci Marion d'être venue
Merci
nous voir.
Merci à vous.
Tu reviendras nous voir une petite fois.
Mais
encore,
avec plaisir, avec plaisir, quand vous voulez.
Merci Marion, on t'embrasse. Bon Tour de France et on va revenir dans quelques instants sur cette course qui semble s'animer, puisqu'à 90 km de l'arrivée, la formation Tinkoff a décidé de secouer le cocotier. A tout de suite, la route du Tour, 11e étape du Tour de France, 3 minutes 18 d'avance pour les deux hommes de tête.
RMC Intégral Tour. RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour est la 11e étape du Tour de France. Nous sommes à 87 km de l'arrivée. Toujours un petit avantage pour les deux hommes de tête. Mais il a tendance à se réduire, Fred, puisqu'il n'y a plus que deux grosses minutes d'avance pour Arthur Vichot et son compagnon d'échappée.
Liv Howard, c'est un Australien coureur de l'équipe Yam Cycling, car effectivement, le peloton profite du vent qui souffle de trois quarts favorable pour aller très vite. On a vu tout à l'heure les Tinkoff de Peter Sagan étirer le peloton afin de provoquer des cassures. Pour l'instant, très peu de dégâts à l'arrière. Tout est a priori rentré dans l'ordre à 86 km de l'arrivée.
On va justement voir ce qui se passe en tête de peloton avec la moto RMC. Georges Quirino qui s'est laissé décrocher de l'échappée pour voir ce qui se passait en tête de peloton. Georges.
Oui, on s'est positionné juste devant le peloton. On était dans les portions là, il y a quelques kilomètres où on était un peu plus à l'abri du vent. C'est pour ça que tout est rentré dans l'ordre. Mais là, à nouveau, nous sommes dans des portions complètement découvertes où le vent qui vient de la gauche arrive même en trois quarts d'eau de ce peloton. On voit juste derrière nous les maillots jaune fluo, notamment de la formation Tinkoff, qui se sont positionnés avec le maillot arc-en-ciel facile à distinguer de Peter Sagan dans les premières positions. On voit également les BMC, les coureurs de la formation Etix Quickstep, qui se sont positionnés également tout à l'heure à l'avant de ce peloton. Et on peut distinguer aussi dans les premières positions le casque jaune et le maillot jaune de Christopher Froome, avec l'armée noire et bleue de la formation Sky également positionnée sur la droite de la route pour protéger le leader du classement général.
Merci Georges. C'est quand même un petit peu calmé en tête de peloton, Cyril. Mais
oui, il y a une cassure. Il y a eu bel et bien une cassure tout à l'heure sur l'accélération des Tinkoff de Peter Sagan. Elle a été tellement violente, cette accélération est tellement fulgurante, qu'effectivement il y a des coureurs qui évoluent désormais à une trentaine de secondes de ce groupe, parmi lesquels dans ce groupe d'attardés Michael Matthews, le vainqueur d'hier, et un certain Thibaut Pinot. Est-ce que tu as d'autres noms, Cyril?
Oui, vous avez Galopin, Vauclair, Sicard, Vandenbroek, Keldermans, Chavanel qui vient d'être victime d'une crevaison, Chris Anker, Sorensen, pour ne citer que les principaux. Nous avons également, donc Galopin, je l'ai donné. Il y a Impe également.
Et Dani Navarro, l'Espagnol de la formation Cofidis. Pas de gros, si ce n'est Michael Matthews, le vainqueur d'hier, et Thibaut Pinot, porteur du maillot à poids, qui de toute façon est déjà d'ores et déjà hors jeu pour le général.
Oui, le classement général, ce n'est plus son affaire. Thibaut Pinot, Jérôme, non, il est parti, Jérôme Pinot. On va le retrouver dans quelques instants. On a vu également, Cyril, les coureurs de la formation éthique se mettre en tête de peloton, peut-être pour calmer le rythme pour permettre à Kittel de rester dans le coup, ou alors pour tenter aussi d'accélérer et de mettre hors jeu d'autres sprinteurs?
Alors, la règle du jeu, vous savez, quand il y a des bordures comme ça, on peut calmer le jeu, mais pour calmer le jeu, il faut passer devant. Donc, pour passer devant, vous êtes obligé de rouler vite. C'est ce qui fait que quand on commence à partir en bordure, eh bien, comme tout le monde va être dans la première, eh bien, la première bordure est obligée de rouler très vite. Alors, les Tinkoff ont mis en route dans un premier temps, les ETX se sont trouvés plus ou moins dans la mouvance, et le seul moyen de ne pas rester dans la mouvance, là où en plus c'est dangereux, là où ça tombe, eh bien il faut venir rouler avec l'équipe qui roule en tête. Si vous arrivez à rentrer dans la bordure qui roule en tête, derrière la bordure montante et descendante, c'est-à-dire les coureurs qui montent face au vent, et puis ceux qui vont redescendre pour revenir se mettre à l'abri dans la roue de ceux qui vont aller prendre leur lait, eh bien il faut tout simplement rentrer dans la bordure montante, et puis ensuite vous avez même la possibilité, mais pour l'instant ça ne s'est pas encore fait, c'est tout simplement de fermer la porte, et pour l'instant personne n'a encore fermé la porte, et quand vous fermez la porte, eh bien le groupe s'en va.
Voilà, la porte est fermée, donc derrière c'est compliqué quand on est pris dans une bordure et qu'on doit...
C'est-à-dire que quand vous fermez la porte, plus personne ne peut rentrer, et donc derrière, ben, vous êtes dans le vent, vous êtes obligé de monter une deuxième bordure, sinon ben, vous explosez.
Ouais. Jérôme, ça doit pas être agréable de se faire prendre comme ça dans un coup et d'être obligé de chasser derrière, je sais pas si ça t'est arrivé.
Jamais je ne...
Quel menteur.
Attendez, la dernière fois que le tour on est arrivé ici du côté de la Grande Motte, c'était avec Contador piégé, GG Roule 44 était à l'avant, lui, avec le Lance Armstrong.
Avec Lance.
J'ai entendu Lance Armstrong.
Tu es au même produit que Lance à l'époque ou non?
Alors là, c'est une insulte, Christophe. Jamais de la vie. En tout cas, j'entendais bien, moi, j'étais bien placé pour savoir que Lance Armstrong encourageait bien ses équipiers pour la mettre bien profond à son copain espagnol. C'est Cavendish qui avait gagné cette année-là.
Ce qui fut fait, mais on rappelle que Alberto Contador avait remporté le Tour de France. Il avait inversé la vapeur suite à cette étape de plaine qui était intervenue dès le troisième jour de course. Il restait de nombreuses étapes pour permettre à Contador de remporter le Tour de France.
Il y a un truc qui est sûr, Christophe, c'est que ce matin, en se levant, les coureurs qui n'ont plus grand-chose à jouer à part des étapes sur ce tour se sont dit, étape à Montpellier, tranquille, un peu de soleil, les cigales, ça va être sympa. Et quand ils ont entendu le vent souffler dans les fenêtres et dans les volets, il y a même Cavendish qui a mis un tweet ce matin là-dessus. C'est vrai que finalement on est un peu stressé, et je pense que les coureurs vont pas passer une journée très sympa, parce qu'à l'arrière, malgré le fait qu'on n'ait pas grand-chose à gagner, il faut s'organiser, il faut rouler très vite, et c'est encore pas une journée de transition aujourd'hui.
Voilà, pas de journée de transition, alors que demain on va devoir escalader, enfin ils vont devoir escalader le Ventoux, même si des doutes quand même sont présents aujourd'hui quant à la tenue de la totalité de l'étape demain et l'arrivée au Ventoux. On en parlait il y a quelques instants avec le patron technique d'Orange, qui s'occupe de toutes les lignes. Il est envisagé de descendre l'arrivée au Chalet.
Oh non, dans Ventoux, il y a le mot vent.
Oui, ce serait beaucoup moins drôle en effet.
Ça, c'est beaucoup moins drôle, oui.
On en a connu des arrivées vanté au Ventoux, c'est le cas de le dire, et il me souvient, c'est ainsi que l'on dit, il me souvient d'édition, je crois que c'était la dernière fois qu'on est monté au Ventoux, ça soufflait déjà fort la veille, il y avait eu des doutes, et finalement les miracles de la logistique du Tour de France avaient permis à cette arrivée de se produire avec la victoire de Christopher Froome.
Oui, qui avait lui le vent dans le dos et les autres le vent de face.
C'était à peu près ça, oui.
Très bien. Bon, le Ventoux, quand t'as 100 km de Zef dans le pif, c'est compliqué quand même.
Ouais,
hein,
c'est dur. Et en plus, on le voit très loin. Alors, on sait que c'est toujours très difficile. Une montée que redoutent beaucoup de coureurs. On est sur une autre planète quand on arrive au Chalet Reynard. Ce serait vraiment dommage, en tout cas, pour le spectacle et pour ce...
Oui, mais restons confiants quand même. Sachons calme garder. Jusqu'à preuve du contraire, le Mont Ventoux s'est monté à Paris-Nice, au Critérium du Dauphiné, dans le Tour de France. L'arrivée a toujours eu lieu au sommet.
Oui. Donc, mais il y avait peut-être pas 100 km heure devant ces gens-là.
Je vois pas pourquoi on aurait 100 ou 150 km heure devant là-haut.
Eole
sera sympa avec le tour.
Bah oui, mais on espère qu'il
mettra juste ce qu'il faut là pour que ça casse.
Ouais. Bon, allez, 80 km de l'arrivée. Fred, on fait un tout petit point et ensuite l'heure d'ouvrir la Musette, le point de la course, le top course.
Avec toujours deux hommes en tête, le champion de France, Arthur Vichot, 24 heures avant la fête nationale, est à l'avant, accompagné d'un Australien, Lee Howard, de l'équipe Swiss Yam Cycling. On est à 80 km de l'arrivée. Les routes sont toutes plates en direction de Montpellier, mais le vent souffle fort, trois quarts favorable, et a créé une cassure sous l'impulsion des Tinkoff de Peter Sagan il y a quelques kilomètres. Dernier pointage en faveur des deux hommes de tête, Vichot et Howard. 2 minutes tout rond à 80 km de l'arrivée. On fait le ménage à l'avant de la course. On vient de voir l'un des coéquipiers de Christopher Froome, Luke Rowe, le Britannique de la Sky, faire signe aux spectateurs massés sur la droite de la route d'écarter, écarter, écarter. Grande tension aujourd'hui avec cet avis de grand vent sur les routes du Tour.
La moto RMC à l'avant de la course entre les échappés et le peloton. Georges.
Juste devant le peloton où on vient de passer la zone de ravitaillement à Cessenon sur Orbe. Je peux vous dire qu'on a passé la zone de ravitaillement. Là, il fallait être à droite pour récupérer la musette car ça va très vite dans le peloton qui n'a pas forcément beaucoup ralenti l'allure dans cette zone. Et on a vu effectivement sur la droite de la route les coureurs de la formation Sky repositionner Christopher Froome qui était vraiment dans les toutes premières positions. Le maillot jaune facilement visible. Donc, on prend toutes les précautions possibles dans la formation Sky. On en avait parlé ce matin du côté de chez Nicolas Portal, notamment le directeur sportif de l'équipe, qu'il fallait faire très attention à cette étape venteuse qui nous mène jusqu'à Montpellier. Le vent est dans le dos actuellement, mais ça va très vite.
Très bien Georges, allez, c'est l'heure de la musette. Juste auparavant, nous vous offrons aujourd'hui un pack de deux places VIP pour assister à la 16e étape du Tour qui aura lieu le lundi 18 juillet entre Moiran en montagne et l'arrivée à Berne. Au programme, accueil à l'espace VIP, déjeuner, passage de la caravane et des coureurs sur la ligne d'arrivée. Attention, vous devez être majeur pour y accéder. Pour jouer, c'est maintenant au 7-32-16. Il suffit d'envoyer le mot Tour. Bonne chance.
Suivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
Et il est l'heure maintenant d'ouvrir la musette du Tour de France.
RMC Intégral Tour. La musette.
La musette de l'Intégral Tour, exactement, avec ce petit air d'accordéon qui nous annonce les infos diverses et variées de la Dream Team sur cette 11e étape du Tour de France. Alors on va commencer par qui ? Par Pierre-Yves Leroux, parce qu'il va ensuite il faut qu'il aille déjeuner quand même, c'est l'heure.
Exactement.
Hein, 15h36, c'est l'heure du goûter. Hein,
oui, il paraît que le buffet est bon en plus. Donc, ouais.
Où est passée la voiture ?
Il était bon, je suis désolé.
Où est passée la voiture numéro 283? Vous savez qu'il y a des bandeaux sur toutes les voitures avec des numéros et on cherche partout la voiture numéro 283. Elle a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu? Vous vous souvenez de la montée dans le col de Péchalis, la montée très étroite? C'est un passage où la caravane publicitaire ne pouvait pas passer, donc il y avait une petite dérivation pour la caravane publicitaire. La voiture numéro 283 s'est engouffré de ce côté-là avec la caravane publicitaire en se rendant compte que c'était pas la bonne route pour elle, parce que la voiture de 183, c'est la voiture Cannondale, une des voitures Cannondale des assistants. Et donc, elle a fait demi-tour, elle est repartie dans le sens inverse. Donc quand on part en sens inverse sur la course, on est exclu définitivement. Il y avait là un contrôleur, un régulateur, Jean-Michel Monin, qui a été champion olympique, qui était régulateur. Il est plus tout à fait régulateur, mais il a gardé l'esprit de la course et il a dit à la voiture, c'est terminé, vous sortez. Ça veut dire que la voiture Cannondale n'est plus dans le Tour de France, il y a une voiture en moins, ce qui est assez handicapant quand même, notamment pour les passages de bidon.
Ah oui, effectivement, mais comment ils ont fait pour se retrouver à l'envers de la route?
Ils sont repartis en sens inverse de la course.
On avait un coureur qui avait fait de l'autostop sur la route du Tour.
Oui, qui était monté dans une voiture.
C'était au pied de Béchalis.
Oui, il me semble.
D'accord, on a fait la même chose, Christophe.
Oui, mais eux, ils sont partis à l'envers et c'était 15 minutes avant l'arrivée du peloton.
D'accord, pas nous. C'était 3 heures avant l'arrivée de la course, donc tout s'est bien passé.
C'est très mal indiqué, hein, donc ils auraient pu quand même lui dire.
Non, mais messieurs, alors j'ai un truc à vous dire. Vous qui avez peu d'expérience sur le Tour de France, vous savez, les flèches jaunes fluo avec la direction en noir. C'est ça qui fait ça, c'est le sens du parcours.
Oui, gentil. Hein.
Et effectivement, à ce rond-point, il y avait la flèche jaune, tu as raison, et la pancarte orange qui nous disait arrivée de l'étape. Et je pense qu'ils ne devaient pas vouloir faire le parcours et qu'ils se sont retrouvés sur le parcours. Ils ont voulu revenir en arrière. Exactement. Et là, effectivement, c'est interdit de se retrouver.
Ça, c'est très handicapant, surtout dans les étapes de montagne, parce que on se divise beaucoup dans les équipes. On envoie des binômes au sommet des montées. On envoie des gens sur le parcours pour ravitailler les coureurs en bidon. en musette aussi, et c'est vrai que ça peut être compliqué, vite compliqué pour Cannondale.
Alors apparemment c'était même dans la montée suivante, celle d'Andorre Arcalis, vraiment la dernière.
Il n'y avait pas d'hésitation. Merci monsieur Leroux, vous avez le droit d'aller vous restaurer.
Merci.
Quelque peu, n'oubliez pas que ce soir nous avons un repas, ça m'a invité par le patron, hein, ça rigole pas là, attention. Puis en plus c'est une soirée déguisée, donc je me demande de comment vous allez vous déguiser, peut-être en tenue.
C'est une info qui vient de tomber, donc
l'info vient de tomber, ça va être coton.
En parlant de déguisement,
petite fille musette. Voilà,
moi j'ai on va continuer dans le déguisement, puisque ce matin, comme vous savez, j'aime beaucoup chambrer, donc il faut savoir aussi faire beaucoup d'autodérision quand on aime cette.
Non mais vas-y Jérôme,
parce que
tout à l'heure ils font chambrer.
À la randonnée, la rando Utel, avec des coureurs amateurs du club de Montpellier, du club des pompiers de Montpellier. Et je suis pas venu avec mes cuissards et mes chaussures sur le vélo, donc on m'a tout prêté. Et c'était assez cocasse comme situation, parce qu'on m'a prêté une paire de chaussures en 44, je sauce du 41. On m'a prêté un cuissard long, donc avec la chaleur j'ai préféré emprunter un cuissard court qui était bien trop grand pour moi aussi. Et on m'a prêté un vélo 54. Ma taille, mes cotes de vélo c'est 52, et j'ai été obligé de faire pratiquement la moitié des 12 km assis sur le cadre, parce que beaucoup trop haut pour moi. Et j'ai posté donc des photos sur mon fameux Twitter GG Roule 44.
Voilà.
Donc allez voir ça, c'est assez drôle. Et je me suis même permis de mettre les lunettes de ville, hein, sur le vélo, puisque j'en étais plus à ça près, en sachant que le maillot de l'équipe Vittel était un bon vieux t-shirt en coton. J'avais un peu le style à la Cyril Guimard en son temps.
Voilà. Décontracté,
total.
Et tu as laissé gagner tes équipiers quand même.
Avec une jambe bien blanche et du poil aux pattes. Donc là, j'avais mis tous les ingrédients.
Ce qui est sympa avec le t-shirt en coton, ce qui change du maillot synthétique, c'est que on ne voit pas le petit ventre qui pousse. C'est quand
même
sympa.
On attaque sur le physique, Fred, et attention à toi, parce que là, j'ai quelques arguments.
Non, alors justement, quand on arrête sa carrière 6 mois plus tard, combien de kilos supplémentaires?
Par rapport à un Tour de France, par rapport au dernier tour que j'ai fait, j'étais particulièrement affûté sur le dernier tour. Pas pour autant que j'étais performant, mais j'étais affûté. Je dois faire à peu près 8 kilos de plus aujourd'hui.
Ah ouais,
par rapport à un poids de début de saison. J'ai même croisé des soigneurs de mon ancienne équipe qui m'ont dit: mais t'as pas grossi, moi je t'ai connu comme ça en tant que coureur, donc ça va. Non, je dois avoir 3-4 kilos de plus, pas plus.
Bon, c'est bien, faut dire que tu fais quand même.
Je suis quand même le plus affûté de la
soirée. Il ne mange que du poisson,
surtout hier soir.
Du poisson et de la salade.
Et du quinoa.
Et du quinoa, exactement.
Et du quinoa.
Yann Pécheral également avec nous. On sent l'air du pays quand même. Yann.
On s'approche de la maison.
Oh là là là, il va y avoir un passage par la maison ce soir.
Et le vent, ça me rappelle vraiment la maison.
Pouvoir partir à la pêche demain matin. Non, demain matin, on t'attend.
On va courir.
Oui, je t'ai attendu ce matin. Ouais. Alors, Yann, ta musette.
La musette, je vais vous reparler du bus Martinet. Mais drame pour les bus Martinet, puisque c'est fini. C'est terminé. Plus de bus Martinet.
Le règne Martinet s'est achevé.
Terminares. Par contre, le bus de la Tinkoff, lui, il est toujours bien garé à Angers, en panne. Ça, pas de problème. Par contre, faire tout le Tour de France dans un bus scolaire, c'était quand même pas raisonnable. Donc, du coup, ils se sont fait prêter un bus de l'équipe Vittoria, équipe italienne, qui leur a prêté le bus, qui les dépanne. Ils espèrent, dans les 2-3 jours qui arrivent, récupérer leur bus, même si pour le moment, il est toujours pas réparé.
Vittoria, c'est le dépanneur, le dépannage neutre sur les courses italiennes. C'est le Mavic italien.
Ouais. D'accord, ils avaient un bus.
Ils ont un bus qui a été déjà emprunté par le passé par cette équipe. J'ai souvenir de l'équipe qui était Saxo à l'époque et qui s'était fait prêter. Mais bon.
Pour l'instant, il y en a qui cherchent une place dans un bus là sur la course, parce que ça vient de revisser à nouveau.
Voilà,
Puis, à signaler que Pierre Roland est très loin actuellement dans un groupe de 6 à 7 coureurs totalement décroché.
De nouvelles accélérations en tête de course, effectivement à 74 km de l'arrivée, non pas en tête de course, puisqu'on vous rappelle que Leif Howard et Arthur Vichot sont échappés, mais leur avance vient de passer sous la minute. Pourquoi? Parce que les treks de Fabian Cancellara et du sprinter Edward Tuns par exemple viennent d'accélérer et de provoquer 4 bordures sur la route de Montpellier. 74 km de l'arrivée, on croirait revivre vivre des scènes déjà vues, notamment en 2009 en direction de la Grande Motte. On a quatre éventails qui viennent de se former avec forcément du dégât. On va essayer de répertorier les coureurs attardés. Sachez que Thibaut Pinot tout à l'heure était piégé par la première accélération de l'équipe Tinkoff. A priori, pour l'instant, pas de gros prétendants au classement général piégé. On va faire l'inventaire et revenir vers vous. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelques kilomètres maintenant, tout le monde était aux aguets, tout le monde était aux avant-postes, parce qu'en cette journée de grand vent, cette journée de tramontane qui souffle à près de 80 km/h aujourd'hui sur les routes de cette 11e étape, évidemment, tous les leaders étaient au courant. Le peloton souffre à 73 km de l'arrivée.
Et il va y avoir des dégâts à l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France, parce qu'on est encore loin de l'arrivée, Cyril. Il peut se passer encore pas mal de choses, et effectivement, on tente d'éliminer les adversaires les uns après les autres.
Bien, la course, c'est une course d'usure dans le vent, parce que à un moment on peut être très bien placé. Tout à l'heure on avait les Team Coop et les Etix, et puis là d'un seul coup ce sont les Trek qui ont mis en route, et même si vous étiez bien placé il y a quelques kilomètres, ben d'un seul coup vous pouvez tout simplement vous retrouver dans une deuxième bordure, même si c'est vous qui aviez monté la première. C'est très mouvant lorsqu'il y a autant de vent, c'est toujours très périlleux, très difficile de toujours arriver à rester, on va dire, sur la première bordure, sur les 15 ou 20 premières positions. Ça demande beaucoup d'efforts, et surtout, ce qu'on ne dit pas assez, il faut être un coureur très 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 adroit, il faut savoir frotter, il faut savoir aller dans un trou de souris, sinon, eh bien, vous pouvez vous faire éjecter.
Ouais, ouais. Ce genre d'étape est l'une des plus épuisantes, en fait, hein, et autant psychologiquement que physiquement, mais surtout psychologiquement, parce que, comme le dit Cyril, il faut rester placé, il faut frotter, et c'est très éprouvant, et en général on finit très très fatigué à la veille de l'arrivée au Ventoux. Beaucoup de coureurs vont être demain très très fatigués au départ.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Fred va nous faire un point complet de la situation de course. Il y en a partout sur la route entre Carcassonne et Montpellier, à 72 500 km de l'arrivée. Le peloton est véritablement en file indienne. À tout de suite.
RMC sur votre iPhone, c'est possible. Téléchargez tout de suite l'appli RMC.
Fred, 72 km, je le disais il y a quelques instants, et il y en a partout disséminés sur la route et sur les 72 km qui nous séparent de l'arrivée.
Oui, ce sont les Trek et les BMC alliés qui ont mis un coup d'accélérateur à 75 km de l'arrivée, et qui ont mis un peu des éventails partout sur la route. On est sur les routes du département de l'Hérault. Les Trek ont été relayés par les Sky de Christopher Froome. Froome qui a bien compris que la meilleure défense dans ce cas, c'était l'attaque, et qui a fait rouler ses coéquipiers de la formation Sky. Le maillot jaune britannique idéalement placé dans cette course de bordure. Cinquième position pour le maillot jaune. Pour l'instant, pas de coureur piégé en ce qui concerne le classement général. On a vu tout à l'heure Thibaut Pinot relégué dans un groupe d'attardés, tout comme Michael Matthews, notamment le vainqueur de l'étape d'hier. On a quatre bordures, quatre éventails répartis sur la route, et ça casse encore dans le peloton, avec un coureur de Sky qui fait la cassure, comme on dit, qui laisse un trou et qui emmène dans sa roue, eh bien, une dizaine de coureurs, une douzaine même de coureurs. Les éventails se forment. Pour l'instant, pas de grosses victimes, mais la guerre annoncée en ce temps de tramontane a bel et bien lieu. Il reste 71 km à parcourir. Ce sont les Astana qui viennent se positionner à l'avant du peloton désormais. Les Astana de Nibali, mais surtout de Fabio Aru. Vous voyez que les équipes du classement général veulent maintenir leurs coureurs favoris aux premières positions. Il y a désormais 5 éventails répartis sur la route de cette 11e étape, et nul doute que cela va desservir les intérêts des deux hommes de tête, Lee Howard, l'Australien, et le champion de France, Arthur Vichot, qui ne compte plus que 20 secondes d'avance sur ce groupe de furieux, le peloton scindé en 5 parties.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. À 70 km de l'arrivée, l'étape s'anime aujourd'hui en direction de Montpellier.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et il se passe beaucoup de choses aujourd'hui sur la route du Tour en direction de Montpellier, un petit peu moins de 70 km de l'arrivée. Nous avions deux hommes en tête qui vont être rejoints dans quelques instants, parce qu'en tête de peloton, ça vise. Il y a des éventails de tous les côtés. Fred Adam.
Quatre éventails exactement pour l'instant. Les principaux prétendants au classement général ne sont pas piégés, au contraire de Michael Matthews, le vainqueur de l'étape d'hier à Revel. Thibaut Pinot est également passé par la fenêtre tout à l'heure en se ce jour de Tramontane sur les routes de l'Aude et de l'Hérault. 69 km à parcourir et le duo tête Leif Howard et Arthur Vichot, le champion de France, ne compte plus que 20 secondes d'avance sur un peloton qui, ça y est, temporise à nouveau. Effectivement, c'était annoncé avec ce vent qui frôle les 80 km/h. Il y avait des risques de cassures. Ces cassures sont intervenues. Rafał Majka, le Polonais qui fait la guerre à Thibaut Pinot pour le classement de la montagne, a également été piégé. Mais à nouveau, le peloton occupe l'intégralité de la largeur de la route, notamment à la faveur d'une traversée de village. On est dans la traversée de Magalas à 69 km de l'arrivée et tout semble rentrer dans l'ordre. Il y a comme ça des à-coups, des coups de chaud, des moments d'alerte. Le rythme est très saccadé. Évidemment, les Sky sont à la barre à l'avant du peloton. Les Tinkoff également du maillot vert Peter Sagan. Les Trek, les Astana, Jérôme, ce sont des tactiques qui sont préparées, qui s'improvisent en cours de route. Il y a des équipes qui sont spécialistes. Comment ça se passe, ces courses de bordure?
Oui, il y a des équipes spécialistes de ce genre de choses. La Tinkoff, la Saxo, anciennement la Saxo Tinkoff, est une des spécialistes. L'équipe Lotto Jumbo, l'équipe Lotto Soudal aussi, les équipes belges en général, les équipes du Nord qui ont l'habitude de jouer avec les éléments climatiques et notamment le vent. On a quelques équipes qui sont très fortes aussi, qui vont, elles, plutôt être sur la défensive. Vous savez, il y a des équipes qui vont attendre le moment opportun, le matin au briefing. On a parlé, on sait à peu près où l'endroit le plus propice à la bordure se situe. On a beaucoup parlé dans la caravane du Tour et notamment avec les directeurs sportifs que j'ai croisés ou que j'ai pu avoir au téléphone du sprint intermédiaire. À 40 km de l'arrivée, on est sur une route qui va très très vite vers Montpellier où c'est très dégagé et c'est là que on va passer à Pézenas. 49 km de l'arrivée, c'est là que je pense les équipes qui ont décidé d'un scénario à l'offensive vont passer par là et il ne serait pas surprenant de voir une équipe comme Tinkoff, comme Lotto Soudal et comme l'équipe Etix Quickstep se mettre à l'avant du peloton là et de visser un grand coup et cette fois jusqu'à l'arrivée.
Et oui, parce que il y a beaucoup d'intérêt pour les équipes de sprinteurs comme Tinkoff par exemple, qui a Peter Sagan, c'est éliminer ceux qui sont plus rapides au sprint et évidemment pour la formation Sky ou d'autres, c'est pour éliminer les rivaux de Froome au classement général. Donc les intérêts de beaucoup sont en jeu aujourd'hui.
Bien sûr.
Et donc ça va visser. On finit dans quel état une étape comme ça quand on chasse derrière une bordure?
Épuisé parce que on est toujours sur le qui-vive. On comme le disait tout à l'heure Cyril, on est toujours à se replacer, à vouloir se replacer. On a toujours l'impression d'être bien placé, mais finalement pas tant que ça. On se retrouve dans la bordure. Je peux vous dire que quand on se retrouve dans le vent, quand ça roule devant à 50 à l'heure et que nous on est un peu en difficulté, on a tendance à vouloir faire un effort, deux efforts, trois efforts et ça on finit par le payer. Après ça devient vite une galère. Alors quand on est tout près de l'arrivée, on s'organise derrière pour rallier l'arrivée. Mais c'est une étape qui est très très compliquée, très difficile. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui et en ce moment même, non seulement les coureurs sont très nerveux, mais ça doit brailler dans les oreillettes. Et ça fera pas plaisir à Cyril Guimard. Mais parce que derrière, dans les voitures, la course se joue. On est en train d'essayer de trouver le moindre endroit propice à la bordure pour prévenir son coureur, son leader d'être vigilant, pour essayer de mettre une stratégie en route. Moi, je me souviens les années où j'étais chez Omega Pharma, on avait même instauré un code parce qu'on essaye de s'écouter parfois de voiture en voiture. Et donc, on avait instauré un code qui était à l'époque Patrick se situe là. Et en fait, ce Patrick se situe là, ça se transformait en c'était cet endroit, ce kilométrage là qu'il fallait embrayer. C'est ce qu'on avait fait sur la route de Saint-Amand où on avait fait une première bordure et que la course avait explosé et Contador avait pris un éclat. Et je pense que c'est ce qui va se repasser aujourd'hui parce que on sait très bien que de toute façon, dans les bordures et dans le vent, c'est à l'attaque qu'on est le mieux parce que quand on essaye de contrer, de subir, de défendre, il y a un moment ou un autre, on se fait piéger. Donc il faut passer à l'offensive.
Et la science de la course vérifie une nouvelle fois pour la forme. Formation Sky, Cyril Guimard qui est en tête de course avec Chris Froome et son maillot jaune en quatrième position dans la roue de ses équipiers.
Oui, alors il faut savoir que Chris Froome avait tout à l'heure deux coureurs qui étaient en difficulté, qui ont été obligés de faire un gros effort pour revenir sur le peloton. C'est-à-dire que vraisemblablement, ils avaient dû à un moment ou à un autre mettre à l'abri Chris Froome dans le vent. Et derrière, ils se sont trouvés pendus. Ce qui veut dire que l'équipe Sky n'a peut-être plus la totalité de son effectif capable de venir monter une bordure, et là on regarde, ils ont effectivement monté une bordure, mais ils ne sont que 4 ou 5 déjà, donc ça veut dire que il y a un moment où on va se sentir un petit peu où Froome va peut-être avoir pas suffisamment d'équipiers pour pouvoir continuer à défendre et qu'il va être peut-être obligé de passer à l'offensive, d'essayer de provoquer une vraie cassure en emmenant d'autres leaders qui auront intérêt à rouler avec lui.
Georges Quirino sur la moto RMC en tête de la course. Les deux hommes ont été repris, Georges, hein. Les deux échappés.
Exactement, ils sont en train d'être repris, les échappés. Arthur Vichot et Lee Howard partis depuis les tout premiers kilomètres de cette étape. On vient de passer la localité de Coulobre. C'est vraiment dans les traversées de ville que, on va dire, ce sont les seuls moments de répit pour le peloton qui est très nerveux, parce que là, dès qu'on sort des villes, on est au milieu des champs de vignes. Où vous entendez peut-être sur le micro, ça souffle très fort. Là, c'est un vent de côté gauche, pratiquement trois quarts d'eau, donc ça va rendre de plus en plus nerveux ce peloton et donner des idées, notamment peut-être au coureur de l'équipe Sky que l'on a vu positionner à l'avant avec le maillot jaune, Christopher Froome.
Le peloton qui est en file indienne, emmené donc par la formation Sky, qui livre un véritable contre-la-montre par équipe, Fred.
Oui, il ne fait pas bon être coureur cycliste aujourd'hui. L'autre jour, c'était la grêle à Andorre Arcalis, cette fois c'est le vent sur les routes du Tour. Et effectivement, à la sortie de cette localité dont Georges parlait, le peloton est en file indienne, hyper étiré, ça roule à plus de 60 km/h, et certains, comme on dit dans le peloton, font le drapeau à l'arrière du peloton. Le drapeau, c'est une façon imagée de dire que la queue du peloton bat dans tous les sens, et un coup à droite, un coup à gauche, chercher l'abri, essayer de ne pas aller dans la caillasse, dans le fossé, pour aller chercher le plus d'abris possible dans la roue du coureur qui vous précède. C'est une lutte de tous les instants, et pour l'instant ce sont bel et bien les Sky de Christopher Froome qui ont compris effectivement que la meilleure défense c'était l'attaque, et que dans le vent il fallait mieux être positionné et imprimer le tempo. C'est ce que font les coéquipiers du maillot jaune, Christopher Froome, à 63 km de l'arrivée.
Et les deux hommes de tête n'ont toujours pas été repris, mais ils ne possèdent plus que 14 petites secondes d'avance sur ce peloton qui roule sur un rythme diablé en direction de Montpellier. L'arrivée de cette étape va sans doute intervenir aux alentours de 17h10, voire un petit peu plus tôt. Donc une dernière heure à vivre ensemble dans quelques instants sur RMC dans l'intégral tour. On laisse passer les infos de 16h et on revient pour le final de cette 11e étape très mouvementée.
RMC jusqu'à 18h, intégral tour.